En haut, dites-moi-les parce que j'aimerais ça savoir c'est quoi. Mais je me rappelle de vieux chrétiens, M. Bernay, entre autres, que vous avez connu, qui disait, on n'arrête jamais d'apprendre. Quand ça vient d'un monsieur comme lui, on se dit, oh, ça se peut que je ne sois pas rendu au sommet encore. Mais la Bible nous exhorte à être transformés. Le mot qui est utilisé dans Romains 12, c'est une translittération de métamorphoser. C'est en grec, c'est ça, métamorphosos. C'est métamorphoser. Vous savez, c'est quoi une métamorphose? Un peu comme la chenille qui devient un papillon, comme ceux qui font des jardins, là, on regarde, moi, je regarde ça, tu sais, puis je m'attends, là, tu sais, je plante une graine, puis je m'attends que le lendemain, ça va être ça doux, mais ça marche pas de même. Hein. Des fois, c'est plus lent. J'ai déjà parlé, je pense, de mon poirier. Hein. Mes enfants, il y a quelques années, m'ont donné un poirier que j'ai planté en arrière. Ça doit faire 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Et j'ai eu une année, une fleur, pas une poire, une fleur. Jamais rien eu. Évidemment, probablement, je n'ai pas le pouce vert, mais il ne produit pas bien gros. T'sais. Je m'attends à plus que ça. Là, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut nous faire croître. Le dernier verset de la deuxième épître de Pierre, le verset 18 du chapitre 3, dit: Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, c'est un verbe qui est constant. Hein? Croissez. On est appelé à croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et Pierre, l'apôtre Pierre, est un homme qui a été métamorphosé, qui a été transformé par l'Évangile, qui a été frappé par la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Et on lit les épîtres de Pierre, les deux épîtres de Pierre, et on se dit, ce gars-là n'était pas dans les Évangiles, c'est pas le même gars, probablement quelqu'un d'autre. Mais non, c'est le même. C'est lui dans les Évangiles qu'on voit. Avec son caractère. Il n'a pas changé de caractère, là. Il n'est pas devenu quelqu'un de plus grand ou plus fort, mais il a été transformé par la puissance de l'Évangile. Et ces gens-là, les apôtres ou les saints de l'Ancien Testament, étaient des gens de la même nature que nous. Vous savez, on ne peut pas dire, ouais, mais c'est Pierre, c'est l'apôtre, c'est celui qui a vécu avec Jésus, c'est celui qui l'a vu sur la croix. Je ne peux pas m'attendre à avoir une vie transformée comme l'apôtre Pierre. Pourquoi? On va voir pourquoi. On ne peut pas dire ça. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, on va lire les versets 1 à 7. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. En passant, le du n'est pas dans l'original. On devrait lire par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait une différence, hein? Vous comprenez, dans la première, il y a deux personnes, le Père et le Fils. Mais quand on dit de Dieu notre Sauveur, c'est le même. Notre Sauveur est Dieu. C'est une affirmation de la déité du Seigneur Jésus. En tout cas, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais je le souligne. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Là, il est là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses habitent en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La transformation ou le changement dans la vie chrétienne est alimenté par une combinaison de la responsabilité humaine et de la puissance divine de Jésus-Christ en nous. C'est une combinaison des deux. Vous savez, on ne peut pas rester assis et demander à Dieu « Donne-moi plus de sainteté. » Et là, après une demi-heure, on dit « Bon, ça y est, j'en ai plus. » Ça ne marche pas comme ça. Dieu va répondre à notre prière, mais on est impliqué dans ça. C'est une synergie, hein? Un travail entre les deux. Et faut être encouragé que par la puissance de Dieu, notre vie peut être orientée vers les vertus divines, comme le texte nous le dit. On peut être transformé. On n'est pas en train de rêver, là. On n'est pas en train de penser que ce n'est pas à notre portée. Et faites pas l'erreur de penser que c'est à la portée des anciens, peut-être des diacres, mais pas de tout le monde. Faites pas cette erreur-là. Les diacres ou les anciens n'ont pas d'auréole. En tout cas, je pense, j'en ai pas vu là, encore un matin. Là. Ils n'ont pas d'auréole, ils n'ont pas de piédestal. C'est des hommes comme tout le monde. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est la responsabilité de chacun de manifester la vie du Saint-Esprit en nous. Et plutôt que de faire une grande introduction sur l'Épître de Pierre, qui a écrit l'Épître, à qui il l'a écrit, quand est-ce qu'il l'a écrit, dans quelle ville, etc., je vais tout de suite sauter dans le texte. En fait, je n'en avais pas prévu non plus d'introduction comme ça. Mais Pierre en fait une au verset 1 et 2. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ. » Pierre s'identifie lui-même comme l'auteur et il dit « Serviteur. » Je suis surpris que Louis II a traduit le mot « doulos » par « serviteur ». Il existe plusieurs mots dans l'original pour identifier un serviteur. Au premier siècle, doulos n'était jamais un serviteur. Doulos, c'était un esclave. Et il y a un monde de différence entre les deux. Et quand Pierre utilise l'expression « esclave », ce n'est pas une expression d'humilité personnelle, ou une indication de leadership, serviteur, Pierre est en train de dire qu'il appartient totalement à Jésus-Christ, dévoué à Jésus-Christ. Au premier siècle, appeler un chrétien « doulos de Dieu » signifie qu'il appartient irrévocablement à Dieu. Dans l'Antiquité, un maître possédait ses esclaves de la même manière qu'il possédait ses outils. Un esclave, c'était un outil animé. Tout simplement. Ça appartenait au maître. Comprenez, là? Appartient au maître. Le maître possède l'esclave. Il l'achetait, bien sûr. Il achetait l'esclave. L'esclave avait une valeur. Mais à partir du moment qu'il était acheté, c'est comme moi, là, tu sais, je jette une pelle là, pour pelleter, là. C'est à moi. Je fais ce que je veux avec. Je l'ai mis sa galerie. Et quand je voudrais m'en servir, je vais m'en servir. Mais elle est à moi. Elle m'appartient. Et c'est ça que Pierre exprime dans le mot « doulos ». Et c'est ça qu'il faut comprendre qu'en tant que chrétien, souvent, on est appelé serviteur, et 9 fois sur 10, c'est le mot « doulos » qui devrait être utilisé. C'est le mot « esclave ». On appartient à Dieu. Un serviteur pouvait changer de maître, parce qu'il y avait des serviteurs au premier siècle. Des gens qui allaient voir, le bien-être social n'existait pas, hein, puis l'assurance chômage non plus. Fait que le serviteur pouvait aller voir un maître puis dire, je suis disponible pour travailler aujourd'hui, et le maître pouvait dire, OK, voici ce que je t'offre, mais finalement, il m'offre pas assez, je vais aller voir quelqu'un d'autre demain. Ça pouvait se faire, ça. Pas un esclave. Un esclave ne changeait pas de maître, à moins que le maître le donne ou le vende à quelqu'un d'autre. Un esclave appartenait à son maître. Ça signifie aussi qu'il appartient à son maître sans restriction. On est entièrement à la disposition de Dieu, dans le service de Dieu. On est entièrement à son service. Au premier siècle, un maître pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait avec son esclave. Et quand je dis absolument tout, là, c'est ça. Absolument tout ce qu'il voulait avec son esclave. Non seulement il appartenait au maître, mais il était à l'entière disposition du maître. Le maître avait le droit de vie ou de mort sur l'esclave. Moi, là, la pelle que j'ai achetée, si je décide de la couper en 4 puis la mettre dans le panier de vidange, c'est à moi. Fais ce que je veux avec. Personne ne va venir me dire, hey, ça m'appartient. Un doulos, un esclave, nous, on appartient à Dieu, et Dieu est entièrement légitimé de faire ce qu'il veut, de nous demander ce qu'il veut. Et vous savez, il n'y a pas une demande que Dieu peut nous faire, qu'on va dire, oui, Seigneur, je ne suis pas sûr. Regarde comme fou à qui t'a demandé ça, là. Il me semble qu'il y en a d'autres qui seraient mieux que moi, là, ou moi, je suis plus élevé que ça, là. Non, 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 ça n'arrive pas. M. Bernet m'a raconté l'histoire d'une conférence missionnaire. Il y a un missionnaire qui vient, un monsieur qui vient d'Afrique, et, à Sainte-Foy, et il explique qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Puis un jeune homme, après la rencontre, va voir M. Bernet, puis il dit, moi, il dit, j'aimerais ça faire ça. Il dit, je veux devenir missionnaire. Il dit, je veux servir. Qu'est-ce que je peux faire? Et M. Bernet, il dit, ben, tu peux ramasser les livres de cantique. Ben, il dit, qu'est-ce que ça va faire avec la mission, ça? Il dit, je veux pas ramasser des livres de... Non, mais il dit, là, à soir, c'est ça que tu peux faire. Tu veux servir? Voici ce que tu peux faire. Soyons heureux de servir. Et en passant, les esclaves au premier siècle, nous, on a un peu la tendance à penser esclaves aux États-Unis, au début des années 1900, comment ils étaient traités. Au premier siècle, c'était pas tout comme ça. Il y avait des esclaves qui étaient des enseignants, il y avait des esclaves qui étaient des médecins, il y avait des esclaves qui étaient des travailleurs des mines aussi, là, des gens qui travaillaient dur. Mais c'était pas tout maltraité. Et d'être un esclave, ça garantissait un toit, vous l'ai dit, il n'y avait pas de chômage, puis il n'y avait pas de bien-être social. Ça garantissait un toit, ça garantissait la nourriture et ça garantissait la sécurité. Ce n'était pas uniquement négatif, mais il ne s'appartenait pas à eux-mêmes. L'esclave aussi devait une obéissance parfaite à son maître, une obéissance absolument parfaite. La seule loi qui existait pour l'esclave, c'était la demande du maître. Ça finit là. La demande, le maître demandait ça, c'était ça. Et vous savez, un esclave, là, il ne punchait pas à 5 heures en disant « on verra ça demain ». C'était 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Entièrement à la disposition de son maître. Quand Pierre se qualifie lui-même d'esclave, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de... Vous savez, dans un autre mouvement religieux, Pierre est considéré comme l'apogée de la foi chrétienne. Pierre ne se considère pas comme ça. Il se considère comme, en fait, l'apogée, il vire ça de bord, lui-là, il fait un 180, puis il se met en dessous. Esclave de l'Église. Esclave de Jésus-Christ. Il était constamment au service de son maître. Qu'en est-il de nous? J'attends pas que quelqu'un se lève et me donne sa réponse, là. Vous avez vos propres réponses. Mais qu'en est-il de nous dans notre vision face à Jésus-Christ? Est-ce qu'on se voit comme des serviteurs, des esclaves, des croyants, des... Vous savez... Comment on se voit? Je vous laisse répondre. Et comment on se voit? Des fois, c'est pas tout à fait la bonne réponse. Messieurs, demandez à vos épouses. Mesdames, demandez à vos maris. Ceux qui ne sont pas mariés, demandez à vos frères et à vos sœurs. Et si on est honnête, on va se dire la vérité. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est tous des pas bons, là. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais des fois, vous connaissez l'histoire du petit chat hein, qui a passé devant le miroir et il voyait une tête de lion. Mais il n'était pas un lion, il était un petit chat. Là, mais voyons-nous tels que nous sommes. Apôtre de Jésus-Christ, malgré qu'il se voit comme un esclave, il a l'autorité pour écrire la lettre qu'il envoie. Et il envoie la lettre à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est pour ça tantôt que je vous ai dit, Pierre n'est pas dans une catégorie à part. Et nous, vous savez, Pierre n'a pas une chambre, comme aujourd'hui on dirait, on dit ça quand on va à l'hôtel, là, une suite luxueuse, puis nous autres on a... un petit garde-robe, là, c'est pas comme ça. On est de la même nature que Pierre. Et il le dit, une foi de la... qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, qui ont reçu en partage. Et le verbe qui est employé exprime fortement la souveraineté et la grâce de Dieu. Qu'ils ont reçu en partage. Quelqu'un leur a donné la foi. Ils l'ont reçu. On a reçu cette foi-là. On ne l'a pas mérité. On ne l'a pas gagné. On peut pas, personne ne peut dire à Dieu, donne-moi la foi, là, parce que méritez ça. Avec tout ce que j'ai fait, là. Personne ne peut dire ça. Dieu, gracieusement, donne la foi à ceux qui l'ont choisi. D'un prix infini cette fois. On en a parlé ce matin. Il y a un frère qui a parlé du prix qui a été payé, un prix qui n'a pas d'égal. Vous voyez, ces épîtres sont. Cette épître est écrite pour tous les croyants. Parce que nous aussi, on a reçu la même foi que l'apôtre Pierre. Et c'est pas c'est pas la connaissance de la foi, c'est la foi qu'on a en nous. C'est une foi subjective, c'est ce qui nous anime. C'est ça, la foi qu'on a reçue. Reçue en partage. Selon un dictionnaire, ça dit dans cette phrase, « Le point est que leur foi leur est parvenue par Dieu sans aucune coopération de leur part. » La foi est l'œuvre de Dieu. Dieu ne se contente pas de nous donner la possibilité d'être sauvés. Dieu nous sauve. Dieu nous sauve. Ce n'est pas juste de dire, gars, je te donne la possibilité. Si tu veux, c'est possible. Pas ça. Dieu nous sauve. Dieu prend l'initiative dans le salut. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, comme je vous ai dit, c'est par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Qui ici ne veut pas la paix et la grâce? Tu sais, si on dit qui voudrait ça, on lève toute la main. Hein, on veut tout ça. On peut tout avoir ça. Et le texte nous dit comment on peut avoir ça. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Par la connaissance. Comme on a lu dans le dernier verset de Pierre, croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est notre privilège. C'est notre privilège et il n'y a pas de limite. Vous savez, quand on suit un cours quelconque, il arrive un moment donné où on a fini le cours, on passe les examens, on reçoit un diplôme, c'est fini. On est gradué. Dans la connaissance de Jésus-Christ, ça n'arrivera pas qu'on va recevoir un diplôme et que Dieu va dire, ben, t'es gradué. Tu peux arrêter ça puis passer à d'autres choses. Ça n'arrivera pas. On va constamment croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est un privilège qu'on a. Et le texte continue en disant, celui qui nous a appelés par sa propre gloire, celle-ci nous assure de sa part les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption dans le monde qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, la puissance de Dieu nous rend capables de faire tous les efforts possibles pour ajouter ces caractéristiques-là qui transforment nos vies. Ça m'a toujours frappé que, dans Jean 11, quand le Seigneur a ressuscité Lazare, il y a une pierre, je ne sais pas comment elle est grosse, mais il y a une pierre devant le tombeau. Le Seigneur est là avec ses disciples. Et qu'est-ce qui l'empêchait de rouler lui-même la pierre ou la faire déplacer ou la faire disparaître? Rien. Mais il a dit à ses disciples, roulez la pierre. Et là, c'est ça que les gars ont fait. Ils ont roulé la pierre. Et imaginez qu'il dit à ses disciples après, ressusciter Lazare. Là, les gars, ils auraient dit, ben, on ne sait pas comment faire ça, on n'est pas capable de faire ça. Ce que les gens pouvaient faire, le Seigneur ne l'a pas fait. Mais ce que les gens ne pouvaient pas faire, lui, il l'a fait. Moi, ça me montre que dans ma vie, il y a des choses que Dieu va faire parce que je ne suis pas capable de les faire. Mais ce que je suis capable de faire, il va me laisser faire. J'ai un chemin à faire. J'ai une participation à faire dans le chemin de la sainteté, de la connaissance de Dieu. Et franchement, là, j'aimerais ça avoir une petite lumière ou quelque chose qui me dit « Oups, c'est le Saint-Esprit qui agit. Oups, c'est moi qui agis. » Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe, là, comment ça se fait. C'est-tu le Saint-Esprit qui agit? C'est-tu moi? Je ne sais pas. Mais je travaille à ça. J'essaie de travailler à ça. J'essaie de mettre tous mes efforts. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné. C'est en le connaissant, en lui faisant confiance, en l'aimant, en devenant comme lui, en cherchant à devenir comme lui, comment le Seigneur agirait dans telle circonstance de ma vie, quand je suis offensé, peut-être par des gens de l'Église, qui l'ont fait peut-être volontairement, peut-être pas aussi. Vous savez, des fois, on est susceptible. Hein? On dit, il y a certaines personnes, on dit, il y a la mèche courte. D'autres, on dit, il n'y a pas de mèche pantoute, lui. Mais soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Comment le Seigneur agirait dans telle ou telle circonstance, dans une injustice? J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, à l'Église, une circonstance qu'il y a une apparence d'injustice dans quelque chose qui se passe. Et le frère, il a fait tout un plat avec ça, là, tu sais, puis il n'avait peut-être pas tort, je ne sais pas. Mais je lui ai dit, toi, tu aimes la justice? Oui, j'aime ça, la justice. Je dis, la justice qu'on mérite, nous, c'est l'enfer. Si Dieu nous donne la justice, là, c'est l'enfer. Parce qu'on est pécheur, ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Point. Fait que tout ce que j'ai en plus, c'est la grâce. Moi, à ta place, la justice, là, pèserait pas trop là-dessus. Surtout avec Dieu. Reste calme. Parce que les inconvertis obtiendront la justice. Ils veulent la justice, ils vont l'avoir. Ça s'appelle l'enfer. Parce que c'est ça que mérite l'être humain. Nous, on obtient la grâce. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se laisser passer le savon sur le dos. Ce n'est pas ça que je dis, là. Mais surtout dans l'Église, faisons attention à réclamer nos droits. Hein? Est-ce que le Seigneur agirait comme ça? Est-ce qu'il a agi comme ça? Attention, moi je suis Dieu, je suis le Seigneur, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Il n'a pas fait ça. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et quand le texte nous dit ça dans l'Épître aux Philippiens, jusqu'à la mort de la croix, je me suis souvent posé la question, pourquoi c'est marqué jusqu'à la mort de la croix? La mort, c'est déjà assez, là. La mort de la croix, c'était la pire mort possible, la plus méprisante possible, la plus douloureuse possible. Jamais on crucifiait un roi ou quelqu'un de digne. On le décapitait. Ça finissait au même, là, mais ça allait plus vite. En guise de son honneur, on le décapitait. Mais ceux qu'on méprisait, ceux qui ne valaient rien, ils étaient crucifiés. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est le respect de Dieu. Comment on respecte Dieu, ça c'est la piété. Je vous raconte une petite histoire qui qui m'est arrivé. Vous savez, quand je prie, moi, je dis vous à Dieu. C'est personnel et j'espère que je ne blesse pas personne ici. Quelqu'un m'a dit, ça fait catholique un peu, ça, dire vous à Dieu. Et moi, j'ai dit, ben écoute, moi, là, mon père vit encore, je lui dis vous. J'ai été élevé comme ça. Mes deux frères disent vous à mon père, je dis vous à Dieu. Et puis là, il me dit, ouais, mais ça met une distance entre toi et Dieu. Et j'ai dit, ouais, t'as pas tort. Des fois, je sens une distance entre moi et Dieu. Mais c'est jamais le pronom personnel. Je tue il, nous vous il. C'est jamais ça. C'est ma capacité à tolérer le péché. Ça met une distance entre moi et Dieu. Pas de la façon que j'y parle. Pas que de la façon que je m'adresse à lui. Et la piété, c'est ça, c'est le respect envers Dieu et ce qu'il est et ce qu'il demande. Et Pierre nous dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il nous donne ce qu'il faut pour que notre vie contribue à la piété. Et au verset 3b et au verset 4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption. Participants à la nature divine, c'est un mot d'affaires qui était employé à l'époque. Koinonia, c'était des partenaires d'affaires. On est en business 50-50. Ou 40-60, là. Mais on est partenaire en affaires. Et Pierre dit, participant, partenaire d'affaires, pas dans une usine de canne de bine, là. Participant à la nature divine. On est participant avec Dieu à la nature divine. C'est nous, ça. C'est le privilège qu'on a d'être associé avec Dieu pour participer à la nature divine. Ça veut dire pour refléter dans notre vie le fruit du Saint-Esprit dans les différentes circonstances de notre vie. Et Pierre va en nommer certaines. Et au verset 5, il va dire... À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, etc. Faites tous vos efforts. Le mot « faites tous vos efforts », c'est le même mot qu'aujourd'hui, on dit une chorale. C'est ce mot-là, là aussi c'est une translittération du grec, une chorale. Vous savez où « ensemble », faites tous vos efforts, « ensemble », faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, soyons participants dans cette chorale-là. Vous savez, l'idée d'être ensemble, de participer. Et les effets qui sont démontrés, la foi, la vertu. La vertu, c'est un beau mot, ça. L'excellence morale et la bonté de caractère. L'excellence morale et la bonté de caractère. Est-ce que j'ai ça dans ma vie? La bonté de caractère, la vertu, l'excellence morale, être capable de juger des choses. Ça, c'est immoral. Et quand je dis immoral, il n'y a pas simplement que les péchés sexuels, là. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont immorales dans la vie, qui sont tolérées et qui sont même encouragées. Mais pour nous, chrétiens, c'est immoral. On ne fera pas ça. Faites tous vos efforts pour joindre la foi à la vertu, à la science. Et la science ici, gnosis, c'est pas de connaître tous les éléments du tableau de chimie, là. Ou d'être capable d'expliquer la physique et ces affaires-là. C'est pas ça la science. C'est la capacité de juger, de mettre en pratique ce que nous avons. la capacité de mettre en pratique ce que nous avons, le don de l'esprit, le don du fruit de l'esprit, la tempérance, contrôle de soi. C'est pas, ça ne s'applique pas seulement pour la boisson. On a déjà eu tendance à associer ça, la tempérance, à la boisson, mais c'est toutes les pulsions mauvaises qu'on peut avoir, d'être capable de se contrôler. Qui me contrôle? C'est moi qui me contrôle avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis pas hors contrôle. La patience. Le mot patience n'est pas passif. Ça veut dire que, m'attendre, ça passe. Une épreuve, puis pas facile. Ça peut passer. Je suis patient. Non, c'est pas ça. C'est de faire confiance à Dieu. Je suis patient. Je vais attendre que l'épreuve passe et peut-être qu'elle ne passera pas. Je pense à des gens qui sont atteints d'une maladie, par exemple, qui se disent, je vais être patient, je vais attendre de guérir, puis finalement, trois mois après, on les revoit au salon funéraire. Est-ce qu'ils ont échoué? Non. Ils ont été patients avec Dieu. Dieu a un plan. Faire confiance que Dieu accomplit son plan dans ma vie et pas nécessairement à la vitesse que moi j'aimerais. Dieu est Dieu, je le laisse faire. Et pourtant, moi, je pourrais dire à Dieu, je le sais, voici dans cette circonstance-là, Dieu, voici ce qu'il faudrait faire, à quelle vitesse le faire, et avec qui, je peux tout te dire, je le sais, là, mais je ne suis pas Dieu. C'est lui qui est Dieu. Fait que je me ferme la boîte, je le laisse aller. Et Dieu connaît les bonnes choses. La piété, j'en ai parlé de la piété, le respect, la crainte de Dieu, l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est, vous savez ce que c'est l'amour fraternel? C'est de s'aimer les uns les autres tels que nous sommes. Et dites-vous que Dieu nous aime. Et Dieu est notre Père. Donc, l'amour fraternel, c'est l'amour qui se vit, entre autres, dans une église locale. Ça, c'est l'amour fraternel. Oui, tu sais, je vous l'ai dit, j'ai visité des frères au Madagascar. Je les aime. Pas tellement de contact avec eux autres, par exemple. Mais dans mon église locale, oui. Là, je peux vivre l'amour fraternel. Pas juste en donner, en recevoir. On vit ça dans l'église locale, l'amour fraternel. Et finalement, la charité. Notre frère a parlé de agapé ce matin, c'est ça le mot qui est employé, c'est l'amour qui va plus loin. C'est l'amour qui recherche la paix. C'est l'amour de Dieu. Et quand on dit l'amour de Dieu, c'est pas juste l'amour que Dieu a mis en nous. C'est de manifester l'amour que Dieu a pour les autres. C'est ça, de manifester et reconnaître l'amour que Dieu a pour les frères, les sœurs. Et Pierre nous dit, faites tous vos efforts. Puis, tu sais, c'est quand même une bonne liste, là. Puis c'est pas, tu sais, comme des fois au restaurant, tu peux choisir deux de ces trois affaires-là ou deux de ces six. Non, c'est pas ça. Ça vient tout ensemble. C'est un package. On est appelé à manifester dans nos vies toutes ces caractéristiques-là. Et la journée qu'on va le faire, ça va être comme ma thermopompe, elle va juste faire ce que je m'attends qu'elle est supposée de faire. La journée qu'on va atteindre ça, il n'y aura pas d'auréole qui va nous pousser, on ne recevra pas de médaille par la poste. C'est ça qu'on est appelé à manifester dans nos vies. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on est reconnaissant pour vos paroles et pour l'assurance qu'on a que, franchement, on trouve que la marche est haute, que c'est pas facile de tout réaliser ça. Et si on était seul, on lancerait la serviette, on n'essaierait même pas, on dirait « je ne suis pas capable ». Mais on a l'assurance qu'on est participant avec vous, que le Saint-Esprit qui est en nous tous, travaille avec nous pour que nous puissions devenir des enfants à votre image. C'est ce qu'on veut faire dans notre vie, comme disait Jean le Baptiste, qu'il croisse et que je diminue. C'est ce qu'on veut faire dans nos vies, notre Dieu. On veut laisser paraître Jésus-Christ dans notre vie, non pas pour avoir une médaille ou quelque chose comme ça, mais pour que les gens puissent être attirés par la gloire de votre Fils. Et c'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen. Amen.